Coucou, bienvenue dans un nouvel épisode sponsorisé par la pleine lune que j'ai en face de moi, qui est magnifique, qui est moins pleine qu'il y a quelques jours, mais qui est toujours aussi belle, qui est même plus belle, j'ai l'impression, que ces derniers jours, puisqu'elle est grande et un peu jaune derrière quelques nuages. Elle est là pour m'inspirer ce soir. J'avais prévu un tout autre thème pour aujourd'hui, un thème beaucoup plus light, plus léger, plus fun, qui ne me demandera pas de faire travailler trop mes neurones. C'était un épisode un peu pause. J'avais même pensé à le faire une sorte d'épisode bonus et du coup, bon, pas forcément le poster aujourd'hui et le poster peut-être entre deux épisodes, quelque chose comme ça. C'est pas exclu que je le fasse à l'avenir. Mais ce soir, finalement, je vais parler d'autre chose parce que je viens d'écouter un épisode qui parle du yoga et politique. Et du coup, ça m'a pas mal parlé et on va discuter de ça ce soir, du coup. Ce soir ou ce matin, cet après-midi, en fonction du moment où vous écoutez cet épisode. D'ailleurs, je serais curieuse de connaître les moments où vous les écoutez. Et voilà, on commence. La première question que je me suis posée, c'est comment est-ce qu'on passe du yoga comme une pratique qui aspire à une union avec la création, avec l'univers, une pratique essentiellement spirituelle, au yoga comme quelque chose de politique et de politisé. Les premières réponses qui me viennent en tête, c'est que déjà, on ne parle pas du même yoga. Il y a effectivement le yoga, où on parle justement de cette union spirituelle, et il y a ce que Sadhguru appelle le yoga des studios. Le yoga, ben voilà, qu'on fait dans des studios. En fait, le yoga, on peut le voir de différentes manières. Et la différence entre ces deux yogas, selon moi, c'est l'intention déjà qu'on a quand on le fait, c'est donc pourquoi on fait du yoga et comment on le fait, évidemment. Et puis, comment est-ce qu'on fait tout le reste à côté, quand on n'est pas en train de faire du yoga, comment est-ce qu'on vit? Voilà, parce que je ne suis pas une experte du yoga, je ne suis pas une prof de yoga, pas encore en tout cas, mais d'après ma compréhension du yoga, selon les yogis, le yoga c'est quelque chose que tu fais en permanence. C'est un mode de vie, c'est une façon d'exister. Il y a une citation qui est connue chez les yogis et qui dit « And now, yoga ». Et en fait, c'est une phrase qu'un maître, je pense, a dit, je ne sais plus qui, et qui veut dire que c'est une personne qui a tout essayé et rien n'a marché. Elle est partie sur les voies intellectuelles, elle est partie sur les voies sur les voies matérielles. Elle a essayé de se réaliser de différentes manières et rien n'a marché. Elle est partie sur la voie religieuse, émotionnelle, de différentes manières. C'est une personne qui a tout essayé et rien n'a marché. Et quand elle a fait tout ça, elle a finalement décidé de se mettre au yoga. Et donc, cette phrase « And now, yoga », j'adore cette phrase. C'est voilà, maintenant qu'on a tout fait, alors maintenant, et que rien n'a marché, alors maintenant, on va faire du yoga, on va se concentrer sur le yoga. Le podcast que j'ai écouté il y a quelques instants, c'était un podcast intéressant. Ça s'appelle, l'épisode s'appelait le yoga, et est-ce que c'est une pratique de droite, je crois. Je vous mettrai la référence dans la description. Et la réflexion était assez intéressante. Bon, déjà, d'abord, pour commencer, je tiens à dire, pour les personnes qui connaissent le livre, je n'ai pas encore lu « Politiser le bien-être » de Camille Test. Je l'ai commandé, je l'attends encore. Mais en écoutant l'épisode, je me suis dit que ça allait probablement dans le sens de ce livre que j'ai hâte de lire. La première réflexion que je me suis faite, c'est que Il y a quelque temps, je me serais énervée en écoutant ce podcast, cet épisode-là ou quelques parties, et j'aurais beaucoup jugé ce que j'avais écouté, chose que je n'ai pas faite en écoutant cet épisode. C'est pour ça que je suis capable aussi de parler et de partager mes réflexions sur le sujet maintenant. Alors, j'ai beaucoup de choses à dire par rapport à ce que j'ai écouté dans le podcast, mais j'ai aussi envie d'apporter quelques clarifications, quelques définitions de base, comme quand j'ai expliqué ce que veut dire le mot yoga. Et la deuxième chose que dont j'avais envie de parler, c'était justement la grande différence, c'est pourquoi on le fait et comment on le fait. Et au final, qu'est-ce qu'on en attend ? Sachant qu'une personne dans le podcast a dit que, voilà, une prof de yoga a dit que normalement on ne doit rien attendre quand on fait du yoga. On fait le yoga et puis voilà, on accepte et on accueille ce qui vient en nous, ce que la vie nous donne, voilà, les énergies qui naissent, etc. Je suis assez d'accord avec ça, même si bon, le but n'est pas d'être d'accord ou pas d'accord, mais juste de partager un petit peu les différents points de vue. Donc, la deuxième chose dont j'avais envie de parler après la définition du yoga, c'est justement cette histoire de pourquoi on fait le yoga et comment on le fait. Il est vrai que quand Sadhguru fait la différence entre le yoga et le yoga des studios, la grande différence, c'est que le premier, on le fait dans une quête spirituelle qui va durer toute la vie. Et le deuxième, le yoga des studios, eh bien, on le fait pour d'autres raisons. Et c'est pas quelque chose de mal. C'est juste qu'il faut être clair que ce n'est pas la même chose, qu'on ne parle pas du même yoga. Chacune est libre de faire ce qu'il et elle veut. Et il n'y a aucune honte à faire le yoga des studios, entre guillemets. Mais il est important de faire la distinction entre les deux, et justement pour parler de cette histoire de yoga politique, cette idée à laquelle j'ai envie d'arriver, et qui, selon moi, est la raison pour laquelle finalement on s'est lancé dans cette réflexion-là sur le yoga. C'est parce que, selon moi, on n'est pas en train de parler du même yoga. Les personnes qui font du yoga dans les studios, et c'est-à-dire 99% des personnes qui sont en Occident et en Afrique, voilà, qui font du yoga, toute personne qui n'est pas en Inde, qui n'est pas dans un ashram, parce que même en Inde, il y a des studios, mais je crois que les studios indiens, quand même, n'enseignent pas le yoga comme il est enseigné en Occident. Mais bon, ne faisons pas de généralité et ne prenons pas des courts-circuits pour des... Nous ne tenons pas de conclusions hâtives. Voilà. Donc, le yoga des studios, celui qu'on fait, généralement, quand on va faire ce yoga-là, c'est pas dans une quête spirituelle. Et généralement, l'environnement ne s'y prête pas non plus. On n'est pas dans un environnement énergétiquement consacré et préparé et conçu pour une quête spirituelle. C'est une salle pour faire du yoga ou qui est dans les studios, qui ressemble plus à une sorte de sport. Généralement, les personnes qui font du yoga dans un studio, elles le font parce qu'elles veulent se sentir bien, parce qu'elles veulent se vider la tête, parce qu'elles veulent, il y en a qui le font pour perdre du poids, pour se muscler, mais pas pour une quête spirituelle. Et quand on est dans une quête spirituelle, on ne sera pas satisfait et satisfaite du yoga des studios. Et ça, j'en parle aussi par expérience. Je ne sais plus si c'était l'année dernière, je crois, ou cette année, le temps passe tellement vite, je m'étais lancée dans une formation pour devenir prof de yoga. Et c'était ici au Maroc. Et j'avais commencé la formation, mais je me suis vite rendu compte que c'était pas du tout... ce que je cherchais, c'était pas du tout ma vision des choses. Et en fait, j'ai vite compris, et d'ailleurs après, le prof nous l'a confirmé, j'ai vite compris que c'était pas une formation pour devenir prof de yoga. C'était une formation pour devenir institutrice d'asana. Les asanas, ce sont les postures. Et donc, on te forme juste pour que tu sois capable de montrer aux gens comment faire les bonnes postures. Donc moi, déjà, quand on m'a dit ça comme ça de façon aussi claire, ben, premièrement, j'ai apprécié l'honnêteté. Et deuxièmement, j'étais en mode dommage, parce que c'est pas du tout ce que je veux. Moi, je veux être professeur de yoga et non pas institutrice d'asana. Parce qu'en fait, ce qui est grave, et ça, je l'ai vu dans certains cours de yoga, c'est qu'il y a certains profs qui sont eux-mêmes, elles-mêmes, en fait, incapables de faire la posture. Et donc, vraiment, c'est là où je me suis rendu compte que vraiment, c'était des instructeurs RIS d'asana. C'est une personne qui peut rester debout et te dire, voilà, tu lèves la jambe, tu tends la jambe, tu lèves le bras, tu fais ceci, cela, tu inspires, tu expires, tu machin, tu regardes droit devant toi, etc., nanana, mais qui elle-même ne va pas la faire, ne va pas faire la posture, ou elle va essayer de la faire, elle ne va pas la faire correctement, etc. Et donc moi, j'étais pas du tout à l'aise, pour moi, c'était pas du tout crédible. Mais je pense aussi parce que moi, j'avais vraiment d'autres attentes. C'est que j'attends du prof et de la prof de yoga qu'elle me transmette aussi en fait une certaine énergie, qu'elle me transmette un enseignement et que je sente aussi que tout le monde dans la salle est là dans une sorte de quête spirituelle. Et en fait, pour être tout à fait juste, j'ai aussi assisté à un cours de yoga qui était magnifique. Ici au Maroc aussi, qui était magnifique. Et la prof de yoga, en fait, elle avait suivi la même formation que où moi je m'étais inscrite, mais qui au final elle arrivait à être plus selon moi qu'une simple institutrice d'asana. C'était d'ailleurs le seul cours de yoga de ma vie. J'avais pris des cours de yoga au Vietnam et tout, et même là-bas je sentais pas du tout qu'on était dans de la spiritualité. C'était plus du sport. Qu'on faisait pour être en bonne santé, pour être plus détendu, pour se vider la tête pendant le cours, etc. Et aussi, quand on sort de ces cours de yoga, on peut ressortir avec les idées beaucoup plus claires, en étant beaucoup plus zen. Il y a même certains yogas où, à la fin, moi, j'avais l'impression de renaître, etc. Donc, ça peut quand même avoir ces effets-là, même dans les studios. Mais pour revenir à ce que je disais sur l'autre prof, elle nous avait donné un cours. Bon, c'était pas dans un studio, c'était dans un café-restaurant qui était fermé pendant le Ramadan et qui était ouvert juste avant le Ftour pour faire le cours de yoga. Et je ne sais pas si c'est parce que c'était le Ramadan et qu'on jeûnait, on était aussi dans les bonnes conditions pour faire du yoga, c'est-à-dire qu'on avait l'estomac vide. Mais c'est clair que c'est aussi l'énergie de cette personne qu'elle a apportée à tout le monde, qu'elle a apportée dans cette salle, et aussi les asanas qu'elle a choisis pour nous et son énergie à elle, en fait, finalement. Et comment elle a mené ce cours-là, j'avais, moi, ressenti que c'était plus que le yoga, plus que ce que moi, je pensais être le yoga à ce moment-là. Alors que je pense que le cours qu'elle nous a donné, c'était le vrai yoga. C'est-à-dire que ce n'était pas du sport, ce n'était pas juste une succession de postures, mais c'était plus que ça. Et on peut faire du yoga pour se sentir bien, il n'y a pas de mal à ça. Mais il faut juste être conscient de la différence. Cette gourou dit quelque chose que j'ai adoré, c'est que il n'y a pas de mal à décider que notre objectif dans cette vie-là soit juste qu'on vive bien, qu'on soit bien, qu'on soit en bonne santé et qu'on vive bien notre vie. C'est notre choix, au final. Et ce que j'ai adoré, c'est que pour vivre de cette manière-là, on n'a pas besoin d'explorer notre potentiel totalement. On peut, en fait, utiliser juste un petit pourcentage, celui qu'on utilise pour la plupart d'entre nous, de notre cerveau, un minimum de chakras activés et en bonne santé, et on va vivre très très bien. Mais si on est, si on a comme souhait d'aller au-delà de vivre juste bien, si on veut être plus que ce qu'on est aujourd'hui et si on veut débloquer tout notre potentiel, ça c'est une autre histoire. Et avec ces personnes-là, c'est d'autres... C'est une autre façon de vivre, en fait, que ces personnes-là vont devoir mettre en place. Mais bon, je ne vais pas m'égarer dans tout ça et je vais revenir un petit peu aux questions auxquelles j'avais envie de répondre et d'aborder dans cet épisode et qui viennent aussi en réaction à ce que j'ai entendu dans l'autre podcast. Une des réflexions que j'ai entendues, bon déjà, c'était une sorte de documentaire sur le yoga, clairement aujourd'hui en Occident, pas en Orient. Le yoga en Occident, c'est un sport, on va l'appeler comme ça, puisque ça se fait dans des salles de sport ou dans des studios de yoga. Anyway, c'est une pratique qui est dédiée aux personnes privilégiées d'une certaine classe sociale, parce que souvent ça coûte cher un cours de yoga. Au Maroc aussi, ça coûte cher d'aller faire du yoga. Donc déjà là, ça devient un peu louche. Et on commence à rentrer dans le capitalisme, tout ça. Ça, c'est de un. De deux, ça, je vous reprends un petit peu les idées que moi, j'ai retenues du podcast et qui étaient intéressantes et d'autres un peu plus problématiques. Ou alors, pas suffisamment développées, selon moi. Le deuxième point, c'est aussi une pratique privilégiée parce que quand tu es pauvre et que tu es dans la merde, t'as pas le temps de faire du yoga pour te détendre. Voilà. Donc déjà, il faut avoir de l'argent et jouir de certains privilèges. Deux, trois, le truc qui m'a tuée, c'était une réflexion qui disait que... Ah, avant ça. Deux, trois, voilà. Et c'est une idée intéressante et je pense que c'est un peu le centre du livre Politiser le bien-être, c'est que ce que certaines militantes, j'ai pas entendu des hommes, j'ai entendu que des femmes, mais certaines militantes politiques, ce qu'elles reprochent au yoga et puis à tout ce commerce, entre guillemets, parce que bon, j'utilise un peu leurs mots, le commerce du bien-être, Le danger derrière ça, c'est que on essaye de détourner le regard de la population et de l'ennemi réel, entre guillemets encore une fois. C'est-à-dire que on est en train de dire aux gens, en fait, aujourd'hui tu vis dans un certain environnement, tu as adopté un certain mode de vie, qui fait que aujourd'hui tu es déprimé, tu es dépassé, tu frôles le burn-out, ta santé physique et mentale n'est pas bonne, tout ça. Et en fait, pour y remédier, eh bien, il faut faire du yoga, il faut aller vers le développement personnel, et comme quoi, en fait, si on veut s'améliorer, si on veut aller mieux, ce qu'on peut faire, eh bien, c'est nous changer nous-mêmes. Et que, au final, la seule chose sur laquelle on peut agir et qu'on peut changer, c'est nous-mêmes. Voilà. Et donc, c'est une réflexion qui va dans le sens de déresponsabiliser l'État. Et l'État, le gouvernement, le système capitaliste, etc., qui est à l'origine de notre mal-être. Et au lieu, en fait, de le cibler et... De le viser et d'essayer de le détruire ou de le déconstruire ou de le démonter, le reprogrammer au lieu, en fait, en tout cas, de le cibler, de le réformer, tout ça, on détourne un peu notre attention et on nous dit, en fait, si tu veux aller bien, tu dois prendre soin de toi, faire du self-care, faire du sport, bien manger... etc. Et on essaye de ne pas toucher à tout ce qui ne va pas, en fait. Ben, au travail qui ne nous convient pas, les conditions de travail qui ne nous conviennent pas, les salaires qui ne conviennent pas, le fait que au supermarché, tu as plus de nourriture malsaine qui est vendue que de nourriture saine, le fait que toute l'économie de consommation, les campagnes marketing, etc., font en sorte d'attirer notre attention plus vers ce qui est malsain, ce qui est inutile, etc., etc., ne font que créer des attentes et des envies et des désirs, etc., difficiles à assouvir. Et donc, au lieu d'aller vers ça, on nous demande de plutôt nous regarder nous-mêmes et essayer de nous changer nous-mêmes. Alors, la réflexion qui m'a tuée dans le podcast que j'ai écouté, c'était que c'est grâce aux luttes et non à la méditation et aux salutations au soleil que les sociétés occidentales ont réussi à se développer, on va dire, et à offrir à leur population les avantages qu'elles ont aujourd'hui et que d'autres pays, peut-être moins développés, n'ont pas. Et que les droits qu'on a acquis et le mode de vie magnifique qu'on a aujourd'hui, je ne peux pas m'empêcher d'être un peu ironique, c'est grâce aux luttes. Et ce n'est pas parce qu'on s'est assis à méditer et qu'on a fait quelques salutations au soleil, qu'on a pu gagner, acquérir certains droits et certains privilèges. Quand j'ai entendu ça, je crois que j'étais debout et je me suis assise. Et j'ai mis en pause l'épisode et je me suis dit, attends, faut que je digère ce que je viens d'entendre. Et c'est là où je me suis dit que je vais en parler dans l'épisode de ce soir et que je ne pouvais pas parler d'autre chose parce que de toute façon, mes pensées, elles vont être avec cette phrase-là. Je suis obsessionnelle comme ça. Donc, je comprends ce point de vue et cette perspective. Et je comprends ce que cette personne a dit. Et en fait, ma première réflexion, ça a été que si tout le monde faisait de la méditation et des salutations au soleil, on n'aurait pas besoin de lutter, déjà. Il n'y aurait pas de lutte. Ma deuxième réflexion, c'est que quand on dit ce genre de choses, c'est justement une perspective non spirituelle. Voilà. C'est justement, on le dit et c'est valable si on pense et on conçoit que la méditation, c'est juste s'asseoir et fermer les yeux et ne penser à rien. Et c'est juste si on croit que les salutations au soleil, c'est une douzaine de mouvements que je fais pour m'étirer, pour étirer mon corps, pour être plus flexible, pour que sais-je. Mais si on était vraiment conscient de ce que veut dire la méditation, de ce que ça change quand une personne devient méditative, de l'impact qu'elle va avoir sur son entourage, et si un groupe de personnes devient méditatif, l'impact que ces personnes vont avoir sur un entourage encore plus grand. Et si cette personne avait été consciente de la portée spirituelle des salutations au soleil, elle ne va pas dire quelque chose comme ça. Maintenant, moi, quand j'ai entendu ça, et j'étais aussi intéressée d'écouter cet épisode du podcast parce que ça m'intéresse aussi. Je suis curieuse maintenant et curieuse avec un certain amusement d'entendre comment est-ce que l'Occident voit aujourd'hui le yoga, la méditation, tout ça. Et ça m'intéressait aussi d'avoir une perspective de militante politique. Et je trouve ça génial, en fait, de parler de ce côté politique du bien-être et de dénoncer ce commerce de développement personnel qui ne vise finalement, qui génère apparemment des sommes d'argent, des chiffres d'affaires de malades chaque année et qui, c'est sûr, au fond, c'est pas toujours... voilà, c'est sûr que pour une bonne partie, c'est capitaliste. Voilà, on fait ça pour l'argent, pour gagner de l'argent, et non pas parce qu'on a envie d'élever les consciences des gens. Ça, c'est... J'ai pas de doute par rapport à ça. Et si ce sont ces gens-là et ce business-là qu'on cible en tant que militante, politique, etc., ça, je comprends et j'appuie totalement. Enfin, j'appuie. Je comprends, on va dire. Non pas j'appuie parce que je ne veux plus être dans un camp ni dans un autre. Je ne veux plus être contre qui que ce soit. Voilà, mais ça, c'est un autre sujet. Ni être pour qui que ce soit, ni être contre qui que ce soit. Je veux juste être d'une certaine façon et puis c'est tout. Voilà. Donc, quand j'ai entendu ça, c'est grâce aux luttes et non à la méditation et aux salutations au soleil qu'on a pu gagner certains droits, etc. Je me suis dit, ouch. Ok. Je pense que ce qui m'a dérangée, c'était surtout de réduire la méditation et les salutations au soleil à quelque chose, parce que ça sonnait comme quelque chose de, voilà, de futile, de léger, de pas du tout important et de pas essentiel, que c'est pas ça qui va nous sauver, alors que moi je crois que c'est ça qui va nous sauver. Voilà, voilà, je crois que c'est ça. Et d'ailleurs, je pense que c'est... D'ailleurs, je pense que ça illustre bien mon évolution ces deux dernières années. Et les personnes qui me suivaient sur les réseaux sociaux ont bien vu que je me suis calmée, entre guillemets, ces dernières années. À un moment où j'étais toujours tout le temps très en colère, antisexiste, sur Instagram, sur YouTube, etc. Ces deux dernières années, je le suis beaucoup moins sur les réseaux sociaux. Et bien justement, parce que je suis passée d'une personne qui croyait aux luttes à une personne pour changer le monde et rétablir plus de justice. Je suis passée de ça à une personne qui aujourd'hui croit que pour élever les consciences, et en élevant les consciences, il sera même plus question de justice, même si je sais que tout ça peut sembler utopique, mais moi j'y crois. Je suis devenue quelqu'un qui pense que pour élever les consciences, ça passe... ça passe à travers une quête spirituelle et à travers un mode de vie bien défini, une façon d'exister, etc. Et qui inclut tout ce qui est méditation, yoga et ainsi de suite. Mais bien sûr, faites d'une certaine manière. Et encore une fois, je ne dis pas qu'aujourd'hui, je fais ça comme ça et j'existe comme ça. Pas du tout. Mais... j'estime que je suis en pleine quête et que je suis sur la voie. Voilà. Je suis peut-être au début du chemin. Je ne sais pas où je suis, en fait. c'est normal, c'est clair, parce que j'apprends toujours et encore en cours de route. Mais ce que je sais, c'est que j'essaye tout le temps. Voilà. Il n'y a pas un moment où je lâche. Et finalement... je me rends compte que finalement, je suis en train d'être consistante, voilà, consistent et régulière par rapport à ça. Et je vais conclure cet épisode avec une dernière réflexion que j'ai entendue et qui était qu'il faut arrêter de trop... demander au yoga et que c'est pas une solution magique qui va résoudre tous les problèmes de votre vie. Et là encore, je dis que oui, si pour vous, le yoga, c'est un enchaînement de postures et d'asanas. Effectivement, c'est pas le fait de lever la main et la jambe qui va faire que ça va résoudre tous vos problèmes. Mais si vous voyez le yoga tel que le Hatha Yoga, dans sa définition yogique pure et que vous allez chercher et tout. Pour vous donner une idée, les formations de yoga, pour être prof de yoga dans les... en Occident, c'est généralement 200 heures. Je ne sais pas s'il y a plus, peut-être qu'il y a 500 heures. Mais si vous allez dans un ashram, je sais que même en Inde, dans les ashrams, il y en a qui le font en un mois intensif, voilà, 4 semaines, et tu deviens prof de yoga. Et même là, j'ai vu des personnes qui ont fait ça, et j'ai l'impression que c'est... ça reste quand même... c'est des formes... le résultat est bon. Voilà, c'est ce que je veux dire. Mais il y a des ashrams en Inde où la formation va durer plusieurs mois. Va durer entre 5 et 6 mois. Voilà, va durer entre 5 et 6 mois. Et où c'est tous les jours. Et avec un programme hyper strict où tu te lèves à 3h30 du matin. Et tu pratiques et tu apprends plein de choses. Et tu fais d'autres choses. À côté, pas que apprendre les asanas et les postures. Et j'avais calculé le nombre d'heures de formation. Je ne me rappelle plus combien c'est peut-être 1350 ou quelque chose comme ça d'heures. C'est une discipline et où on t'apprend énormément de choses, pas uniquement les asanas. C'est vraiment un apprentissage spirituel et c'est une quête spirituelle et c'est une formation qui va dans ce sens-là et dans cet objectif-là, qui veut te, t'apprendre et renforcer en fait, te renforcer dans ta quête spirituelle. Et c'est des formations où tu vas apprendre eh bien, les postures, mais où tu vas apprendre, tu vas aussi suivre un régime alimentaire strict, végétarien, où tu vas manger que 2 fois par jour. Et ça, c'est tous les jours pendant une vingtaine de semaines. Où tu vas faire du bénévolat dans l'ashram, parce que cette discipline, c'est un mindset, en fait, qu'il faut acquérir. C'est pas juste être instructeur ou instructrice d'asana, de posture, te montrer comment faire. Non, non. C'est ton mindset qui doit changer. C'est toi qui dois te transformer. Tu te transformes pour devenir professeur de yoga. Sachant qu'avant, ça a duré des années pour être formé pour le yoga, mais notre mode de vie aujourd'hui fait qu'on n'est pas prêt à dédier 12 ans de notre vie pour devenir prof de yoga. Et du coup, aujourd'hui, on propose des formations au mieux sur, comme j'ai dit, entre 5 et 6 mois, rigoureux, tous les jours, où tu apprends aussi à enseigner, donc on t'apprend les méthodes d'enseignement. C'est des formations où tu apprends l'anatomie humaine, où tu es formé aussi sur la nutrition, et où on t'apprend énormément de choses, pas juste les postures. Et moi, je rêve de faire cette formation. Ça coûte très cher aussi. c'est pas comme les formations intensives d'un mois qu'on trouve dans les ashrams, mais où j'ai l'impression que ça coûte presque rien. C'est juste un petit montant symbolique. Là, ça coûte de l'argent. Et je sais que ça peut paraître problématique. Souvent, on me pose la question, oui, mais est-ce que tu trouves pas, toi, bizarre que des... une institution qui se proclame spirituelle, réclame de l'argent, etc. Non, je ne trouve pas ça problématique, tout simplement parce que c'est une institution qui est réaliste et qui a aussi besoin d'argent pour pouvoir étendre son enseignement au plus grand nombre. Et je sais aussi que ce sont des institutions qui généralement peuvent offrir la même prestation à différents prix et des fois à des prix symboliques. Pour certaines personnes, en changeant un petit peu le contenu de ce qu'on leur donne. Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans des détails comme ça. Voilà, je voulais juste conclure. Je pourrais en faire un autre épisode, ça. En fait, l'argent et la spiritualité, est-ce que c'est vraiment deux choses contradictoires ou pas? Ma réponse est déjà non, je le sais déjà, mais je peux en faire un épisode pour prendre le temps d'expliquer en fait le raisonnement et ma perception des choses et pourquoi c'est pas contradictoire selon moi. Donc voilà, je voulais aussi conclure cet épisode avec ça. Et finalement, je reviens finalement à l'idée avec laquelle j'avais commencé cet épisode, c'est qu'il faut distinguer de quel yoga on parle. Voilà. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Faites du yoga avec la bonne intention. Vous savez, c'est comme la prière religieuse. Il y a deux personnes qui peuvent faire la même prière, mais elles n'ont pas la même intention. Et elles ne vont pas du tout la faire de la même manière. Il y en a une qui va la faire à la va-vite, parce que pour elle, il faut juste la faire, ou parce qu'elle est pressée, elle a d'autres choses à faire, etc. Et elle veut juste s'en débarrasser, entre guillemets. Et puis, il y a l'autre personne qui va en faire une de ses priorités de la journée, qui va prendre le temps de bien la faire et qui va essayer d'en tirer le maximum et qui le fait aussi avec une prise de conscience différente parce qu'elle a une meilleure ou plus grande conscience de ce que cette prière signifie en fait et apporte en vrai, etc. etc. Donc, comme d'habitude, c'est important de savoir pourquoi on fait ce qu'on fait et ça influence à fond le comment on le fait. Et au final, c'est ce qui est le plus important, c'est comment on fait les choses. Prenez soin de vous, j'espère que vous allez bien et je vous dis à la prochaine. Bisous.